Je suis avec Olivier Meiss qui vient présenter son premier long métrage de fiction, Bitter Flowers, qui va sortir bientôt. Donc à Bruxelles, il sort déjà ce mercredi 28 mars. Et il est passé au festival Ramdam où il a été très bien accueilli. Donc, bonjour Olivier.
Bonjour.
C'est un film qui est entièrement parlé en chinois, qui se déroule quand même en grande partie à Paris. Vous nous offrez avec ça un point de vue assez inhabituel. Et je trouve que vous y arrivez avec d'une manière très réaliste à nous plonger dans la peau de cette jeune femme perdue dans cette capitale. Et comment vous avez fait pour distiller vraiment ce réalisme? Parce qu'il y a deux cultures, et je pense qu'en fait, c'est deux cultures que vous connaissez très bien.
Ben oui, donc ce projet doit être vu dans un ensemble. En fait, moi j'ai commencé à travailler en Chine en 2000, donc ça fait 18 ans que je fais des allers-retours entre la Belgique et la Chine. J'ai fait plusieurs reportages radiophoniques là-bas, des documentaires films. Et voilà, c'est ma première fiction. Mais donc je viens du documentaire et j'ai beaucoup tourné en Chine. Donc quand j'ai rencontré ce groupe de femmes à Paris, ben j'ai d'abord, dans un premier réflexe de documentariste, j'ai d'abord fait toute une recherche documentaire autour de leur vie, d'où elles venaient, quelle était leur histoire, mais aussi où est-ce qu'elles vivaient, où est-ce qu'elles travaillaient, tout ça. Et j'ai voulu essayer de remettre ça dans ma fiction. Non pas parce que c'était le challenge d'avoir une fiction qui soit juste au niveau du réalisme, où tout soit correct, les costumes, les décors et tout ça. C'était pas dans cet objectif-là. C'est pas la justesse pour la justesse, mais c'est pour justement qu'on ne se pose pas de questions sur ce lieu, sur ce groupe, que ce soit vraiment clair que voilà, il s'agit d'une histoire vraie, elle est plantée, maintenant entrons dans le personnage, dans sa problématique, dans son intimité, et voilà, c'est vrai que j'ai porté une attention particulière à tous les détails, mais finalement c'est pour qu'on ne puisse pas parler de ces détails.
Oui, tout à fait. Ça fait une fluidité, hein, celle du réalisme, justement. En effet, on ne se sent pas perdu. C'était pour ça la question de mettre l'accent sur le fait que, voilà, c'est parlé en chinois. Ça pourrait faire une rupture pour un spectateur d'ici.
Oui, je crois qu'au départ, ça peut faire un petit peu peur aux spectateurs en se disant, voilà, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas, c'est parlé chinois, c'est d'une culture qui ne nous est pas très proche. Et en même temps, moi, je trouve que le film, il est très accessible. J'ai voulu que la narration soit vraiment quelque part très généreuse. Donc on est pris dans l'histoire, l'histoire avance avec un bon rythme et on se retrouve à être très en empathie avec des gens qui sont d'une culture totalement différente que la nôtre, quoi. Et c'est vrai que de par ma position d'être un petit peu entre les deux, j'ai essayé de faire ça au mieux, de pouvoir plutôt mettre en avant l'humanité des personnages et qu'on partage, hein, que les spectateurs et les acteurs partagent ensemble et voilà, être ça mis au service d'une histoire qui avance et finalement c'est du cinéma grand public, je trouve.
Bah, tout à fait, dans le sens où en effet on est vraiment porté, il n'y a pas de distanciation, quoi. On peut vraiment se projeter dans le personnage, ça c'est vrai. Et alors, vous parlez justement, hein, de votre expérience en tant que documentariste, effectivement, et j'ai lu d'ailleurs que vous aviez dit qu'en effet l'idée du film vous est venue, c'était grâce à de l'observation. Donc moi en effet, oui, je vois qu'il y a un travail d'observation qui est comme le moteur du film. En fait, ce qui m'a frappé, c'était par exemple cette bouche de métro typiquement parisienne, voilà, et avec tout cet afflux de gens, ce va-et-vient, et donc voilà, il y a ces femmes chinoises qui sont là aussi. Mais le fait que quand on voit des gens comme ça dans la rue, on est loin d'imaginer quelle est leur réalité. Et donc en fait, c'est l'observation qui va amener à faire une recherche plus loin. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'observation qui a été votre moteur?
Oui, en tout cas au départ, c'est certain. Donc effectivement, j'étais à Paris en 2009 pour présenter un film au cinéma du Réel. Et ben, quand j'avais un peu le temps, je me baladais, je suis tombé sur un groupe de ces femmes. Et je voyais bien que c'était pas des Chinois de Paris, des Chinoises de Paris, parce qu'elles avaient un peu très typé du Nord, alors que les Chinois de Paris proviennent plus du Sud. J'entendais leur accent, mais je voyais bien que c'était pas des touristes. Il y avait quelque chose que je comprenais pas, il y avait quelque chose de mystérieux. Et j'ai voulu aller au-delà de ça. Puis j'ai appris leur histoire, d'où elles venaient, leur projet migratoire, donc comment ça se passait, dans quel cadre. Et comme tout le temps dans mon travail que j'ai développé, même en documentaire, c'est que j'essaye d'aller au-delà de l'information pour aller rencontrer les humains qu'il y a derrière et voir qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ces histoires. Parce qu'on peut, c'est pas non plus c'est pas un phénomène qui est extrêmement connu, un petit peu en France, parce qu'à Paris, bon, je veux dire, elles sont là depuis un petit temps, et puis, mais sorties de France, peu de gens connaissent cette réalité. Mais néanmoins, on pourrait avoir eu vent de cette histoire. Mais qui sont-elles véritablement? Qu'est-ce qu'elles vivent? Quelles sont leurs préoccupations? Voilà, c'est là que se pose mon travail. C'est essayer d'aller au-delà de l'informatif, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Oui, donc il y avait eu un attrait pour l'observation de façon générale et peut-être aussi un attrait pour les Chinois en particulier qui
Oui,
ont amené finalement à ça.
tu as amené à ce projet, oui.
Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir à quel point il y a cette tradition hein, de venir et de trouver du travail en tant que nounou dans des familles chinoises, qui visiblement, donc je l'ai lu par après, était quelque chose qui dans les années 90 se faisait beaucoup et qui devait rapporter de l'argent à ce moment-là. À quel moment ça s'est transformé et c'est devenu ce que c'est maintenant en fait
Écoutez, c'est assez mystérieux. Je ne connais pas exactement. Personne ne connaît exactement qu'est-ce qui a été le déclencheur. On sait juste que, voilà, c'est véritablement une demande de femmes qui viennent donc en France pour apprendre le mandarin aux enfants. Parce que ces familles de riches chinois qui ont des restaurants, des supérettes, mais eux, ils viennent du sud de la Chine et ils ne parlent pas nécessairement un bon mandarin. Donc au départ, il y a vraiment une volonté d'apprendre le bon mandarin à leur progéniture et donc de faire appel à des femmes venant du Donghai, un lieu où on parle le bon mandarin, quoi. Donc ça c'est sûr que ça a commencé comme ça. Et c'était fin des années 90. Voilà. Maintenant, probablement qu'il y a eu un afflux de femmes qui ont fait diminuer le salaire parce que trop grande offre, ça c'est possible. Il y a aussi le fait que la conversion entre le yuan et l'euro a drastiquement changé. À un moment, on était à 1 pour 10, 1 pour 12. Maintenant, on n'est plus là. Donc ça veut dire qu'elles gagnent moins aussi. Il y a probablement un ensemble de facteurs qui fait que voilà, quand elles arrivent maintenant, ben, ce qu'elles peuvent gagner en tant que nounou, ça ne peut pas les amener à la concrétisation de leurs rêves. Donc il faut trouver un autre moyen, ce qu'elles trouvent dans la prostitution. Et donc ces femmes envoient de l'argent, mais issu de la prostitution, mais sous le couvert de, voilà, je bosse comme nounou. Et donc les femmes restées en Chine voient que ça fonctionne en fait. Donc la rumeur, le mythe se perpétue. Et ce qui fait que maintenant on est en 2018, donc petite vingtaine d'années après le début de ce phénomène, et des femmes arrivent toujours du Donghai à Paris dans la même méconnaissance de la réalité qu'elles vont trouver.
Oui, effectivement, oui. Est-ce que c'est vraiment si secret? Parce que de toute façon, c'est clair que la prostitution est toujours un sujet tabou, hein, où qu'on soit dans le monde. Parce que, en fait, je dis ça par rapport au fait que, donc, nous, on connaît votre film sous le nom de Bitter Flowers, qui est un nom très beau, très poétique, mais donc apparemment, le titre chinois se traduirait plutôt par se jeter à l'eau, que je trouve, en fait, avoir quelque chose d'un peu plus explicite. Donc qui montre peut-être comme un aveu qu'au fait ça se sait, quand on se jette à l'eau, on sait quand même vers quoi on va au fait. Enfin, je sais pas.
Écoutez, Donc, j'ai choisi le titre chinois parce que il traduisait deux expressions qui rentraient en écho dans le film. C'est-à-dire que en Chine, on a beaucoup utilisé cette expression pour parler du fait de se lancer dans le business. C'est quelque chose de très important en Chine contemporaine. C'est voilà, il faut plus attendre que la solution vienne d'en haut. Il faut prendre son destin en main. Il faut se lancer. Faire un commerce soi-même, vous voyez? Et donc, ils appellent ça se jeter à l'eau. Mais les prostituées que j'ai rencontrées à Paris, quand elles parlaient du fait du passage à la prostitution, elles utilisent toujours un langage assez imagé comme ça, et notamment l'expression se jeter à l'eau. Et donc,
D'accord.
les deux rentraient un petit peu en écho, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, quant au fait que ce soit caché ou pas, la réalité, le tabou, il est là. Et donc, vraiment, c'est une réalité qui doit pas se dire. Maintenant, une chose dont je suis certain, c'est que les femmes qui arrivent au milieu de leur vie, à 35, 40, 45 ans pour certaines, à Paris, dans l'idée de faire nounou, elles pensent vraiment qu'elles vont faire la nounou. Ça, c'est un fait, j'ai pu le constater moi-même. J'ai vu des personnes complètement déconfites quand elles se retrouvent face à la réalité. Donc c'est réel. Maintenant que de retour au pays, ça ne fuite pas à l'intérieur des familles. Ça, évidemment que le secret, il peut se garder un temps, mais il y a des failles, c'est évident. Mais néanmoins, les personnes qui sont autour de secret n'ont pas non plus intérêt à ce que ça se sache. Donc cette réalité est vraiment confinée. Et je vous dis, c'est ça qui explique que une petite vingtaine d'années après, les premières, il y en a toujours des nouvelles qui arrivent.
Oui. Oui, donc on peut imaginer, ben oui, voilà, celles qui reviennent, ben il peut y avoir un désir de conscientiser. Il doit peut-être y avoir des associations comme ça, que sais-je. Quelque part, peut-être vous, avec votre film, vous avez cette envie-là de sensibiliser, de mettre en garde contre le fait que parce que finalement, c'est des femmes qui n'ont pas. Elles ne sont pas en train de fuir la misère ou quelque chose. C'est vraiment une espèce d'obsession d'un futur meilleur. Et voilà, c'est votre film quand même, il a envie de dire, attention, vous allez vers un destin assez destructeur là, avec ce choix que vous faites.
Bah écoutez, oui, si le film peut avoir un impact, je veux dire, dans la vraie vie, pour casser ce cercle vicieux, pourquoi pas? Maintenant, c'est aussi un petit peu présomptueux pour un réalisateur d'imaginer que son film va changer le monde, vous voyez? Mais en tout cas, je ne serais pas contre qu'il ait cet effet-là. Maintenant, ça va être difficile parce qu'encore une fois, étant donné le tabou qui a autour de toute cette réalité, le film ne sortira pas en Chine de manière commerciale. Donc il n'aura pas un écho large qui pourrait susciter un débat au sein de la société, etc. Vous voyez, on va être plutôt dans une diffusion plus ciblé sur des ciné-clubs, dans les universités, des choses comme ça. On va essayer de faire exister le film, mais malheureusement pas de manière large. Parce qu'il n'a pas reçu le visa de censure, justement, du gouvernement chinois pour qu'il puisse passer. Donc je ne pense pas qu'il aura l'effet escompté, mais pourquoi pas, je ne suis pas contre en tout cas. Maintenant, je l'ai fait aussi c'est pas l'unique raison pour lequel j'ai fait ce film. J'ai fait ce film sur cette femme-là qui femme chinoise qui se retrouvait dans ce type de sacrifice-là, mais quelque part, elle parle aussi des autres femmes chinoises qui se retrouvent dans d'autres situations à mettre également leur présent entre parenthèses pour un futur meilleur, pour le futur de leur famille. Je crois qu'il y a aussi une possibilité de voir ce film dans une perspective plus large.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, de toute façon, c'est vrai que ce que vous dites là, hein, de mettre ce présent entre parenthèses, ce sens du sacrifice, Bah oui, il est clairement là. C'est ça qui est terrible, en fait, hein. Aussi le fait que ce soit finalement une prostitution consentie, en fait, c'est
Oui,
assez terrible.
c'est une prostitution consentie, et ça, c'est vrai que je le pointe souvent, c'est que là, on n'est pas dans le cadre d'un réseau de trafic d'êtres humains, on n'est pas dans le cadre d'une personne qui obligerait une autre, par une contrainte physique ou morale, de passer à la prostitution. C'est une prostitution consentie. Alors, entendons-nous bien sur ce terme, il ne s'agit pas d'une prostitution qui est faite de gaieté de cœur. C'est évidemment pas le cas,
Oui, bien sûr.
mais néanmoins, ces femmes gardent leur libre arbitre tout du long, et elles ont leur destin en main. Maintenant, ce n'est pas non plus qu'elles ne subissent pas de pression. C'est une pression qui est la pression de la société, de la réussite, du changement de classe possible en Chine, et qu'elles sentent ce train qui est là, le train de la modernité, le train du succès en Chine. Il faut le prendre, il faut le prendre. Et c'est dans ce cadre-là que vient s'inscrire leur projet migratoire, voyez?
Oui.
Et elle décide, à un moment, il est vrai, que dans cette situation-là, avec les rêves qu'elles ont, eh bien, elle décide de ne pas faire marche arrière, ce qui ne serait pas sans conséquence par rapport au futur de leur famille, de revenir comme ça en assumant un échec. Non, elles décident de continuer. Elles s'accrochent à leurs rêves, et elles prennent en main le fait de ce sacrifice-là. Elles l'acceptent. Elles l'acceptent.
Oui, ce qui ne laisse évidemment pas de séquelles au retour non plus, évidemment. Ça va plus loin que ça, oui.
Ah, c'est pas
Ouais,
sans conséquence, c'est
ouais,
sûr.
ouais,
C'est sûr.
ouais.
Relationnellement, oui, effectivement, donc le film se terminera en Chine, commence et se termine en Chine, et c'est sûr qu'au retour, ben, elle pose un regard différent sur elle-même, et sur ses rêves, et sur ce qui l'a amené à vivre tout ça.
Oui, il y a clairement des dégâts collatéraux, quoi, j'ai envie de
Bien
dire.
sûr,
Oui,
bien sûr.
oui, oui. Bah, pour revenir juste sur le fait qu'il y a ce présent entre parenthèses, j'avais juste envie de remarquer, au fait, plusieurs fois, il y a presque comme un plan fixe, un arrêt sur image sur Lina, la protagoniste. Et je trouvais que c'était très bien pensé de faire ça. Enfin, est-ce que c'était dans cette idée-là, justement?
Ben oui, c'est un film, c'est vraiment un film portrait, c'est un film sur elle, donc elle porte tout le film, et il fallait essayer de rentrer vraiment dans son intimité, donc par la mise en scène, une série de plans qu'on a fait, on a essayé justement de créer ce lien entre le spectateur et elle, cette empathie qui fait qu'on est avec elle, on ressent les choses avec elle. Et effectivement, on puisse ressentir le temps dans lequel elle est. Effectivement, quand elle est à Paris, elle met véritablement donc son présent entre parenthèses. C'est pas tellement ça qui lui importe. Elle vit des tas de choses, mais c'est pas là où ça se passe. Ce qui se passe, l'important, c'est en Chine.
Ouais.
C'est à 12 000 km de là.
Ouais, tout à fait. Ce qui est étonnant aussi quand même, parce que c'est un propos assez terrible, c'est une histoire quand même assez horrible, hein, mais c'est qu'il y a vraiment une certaine douceur. Donc vous avez fait, bah, voilà, vous n'avez pas commencé à jouer dans le dramatique et tout ça,
Non.
justement pas accentuer tout ça. Et il y a cette douceur qui pourrait presque être dérangeante. Je peux imaginer que ça puisse déranger des personnes, au fait. Je sais pas si on
Il
peut dire
y
ça.
a deux choses. Il y a d'une part, par rapport à ce que vous disiez sur le fait de ne pas les présenter comme des victimes, et de ne pas appuyer le pathos. Ça, c'est comme ça que j'ai vu ces femmes. C'est-à-dire que ces femmes, malgré la difficulté dans laquelle elles sont plongées, elles gardent vraiment une dignité. C'est des femmes fortes que j'ai vues, qui tenaient droit. Et la douceur, ben, moi, je me suis plus. Il n'y a pas que. C'était un petit peu. Peut-être facile d'aller dans la dureté de la prostitution. On la voit quasi pas, en fait, la prostitution, hein. D'aller dans les moments durs qu'elle pouvait vivre. Je me suis dit, on peut se les imaginer. ces choses-là. Et moi, ce qui m'intéressait plus, c'était comment cette femme survit là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai mis plus l'accent sur, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la solidarité entre les femmes. Vous voyez, cette
Tout à
espèce
fait.
de petit bout de Chine que ces femmes reconstruisent au milieu de Paris. Vous voyez, j'ai plutôt mis l'accent là-dessus. Parce que c'était voilà, tout ce qui était de la dureté, je me suis dit qu'on pouvait très bien se l'imaginer en fait.
Oui, tout à fait, oui. Oh, c'est
C'est
bien.
là,
Oui.
mais on n'en
Ouais.
fait pas trop.
Ah, c'est vrai. En fait, j'avais juste encore non, deux questions.
Je t'en prie.
Donc, en fait, une, ben, par rapport, donc vous en avez parlé un peu avant, mais sur le fait que donc le film ne sera pas montré officiellement en Chine, donc il n'a pas obtenu le visa de censure. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi?
Oui, donc il ne s'agit pas du problème directement lié à la prostitution, mais c'est plutôt parce qu'on met en exergue le trajet d'un personnage qui pense que pour assurer un avenir meilleur à sa famille, ça passe par un voyage à l'étranger. Par un voyage temporaire à l'étranger, ramener une certaine somme d'argent pour pouvoir se lancer en Chine. Et ça contrevient à la conception un peu paternaliste que le gouvernement chinois a de l'exercice de son pouvoir. C'est-à-dire que lui est censé assurer le bonheur des Chinois en Chine. Donc rien que de montrer un personnage comme ça nous coupait de la diffusion commerciale. Même si, c'est là où c'est un peu dommage, même si... Au final, le personnage a pose un regard en fin de film, pose un regard sur le trajet qui a été le sien. Et finalement, on pourrait se dire que ça pouvait être même un film qui pourrait justement être complètement admis par les autorités chinoises. Mais non, malheureusement, on ne peut pas parler de ce type de
D'accord.
personnage.
Oui, c'est ce que je me disais. C'est quand même finalement, c'est le contraire de ce propos-là qui est mis en avant, quoi. Le fait que, bah non, on va pas
Ben
tout
oui.
comme ça trouver un meilleur futur en allant à l'étranger, quoi.
Oui.
Bon, ils en sont restés au premier.
Oui,
Ok.
oui,
Bon, d'accord. Et donc en fait, bah, ma dernière question, c'est tout simplement de savoir si vous avez continué envie de faire des films de fiction.
Oui, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Et oui, j'ai l'impression que c'est très addictif de faire des films de fiction comme ça, parce que c'est vraiment une grosse machine. Voilà, c'est dense, hein, c'est long, c'est dense comme travail, mais en même temps c'est très agréable parce que, au contraire du documentaire, où c'est des plus petites équipes, souvent moi j'ai même tourné seul, mais là on doit être en contact avec beaucoup de corps de métiers différents, beaucoup de gens, et j'ai trouvé ça très riche et ça m'a vraiment enthousiasmé, quoi, et j'ai bien envie de continuer à en refaire. Mais je ferai aussi, je pourrais continuer à faire du documentaire ou du reportage radiophonique aussi. J'aime bien ces différentes choses en fait, hein. Je veux pas me cantonner. Voilà,
Oui, l'un
mais
ne remplace pas
j'espère
l'autre.
refaire une
Ah
fiction.
ben super. Bon, en tout cas, ça sent que vous avez mis du plaisir, du vôtre.
Oui.
Oui, c'est un beau film, sincère, je trouve.
Ben
Voilà.
merci.
Bon, merci
Merci
à
beaucoup.
vous.
Merci.